Merci beaucoup, chers collègues. Je voudrais vous remercier pour m'avoir invité ici à deux titres, parce que je me retrouve à l'Université de Bruxelles, mais à un second titre, je voudrais vous remercier, car cette conférence sera probablement ma dernière activité scientifique ou académique, si vous voulez, puisque je pars à la retraite à la fin de l'année, et d'ici là, je ne compte pas me livrer à d'autres activités. Donc, j'ai commencé à l'ULB, mes activités scientifiques, et je termine aujourd'hui, grâce à vous, mes activités ici à l'ULB. J'en suis particulièrement content. Quand vous m'avez invité, vous n'avez pas été attentif, évidemment, à cet aspect des choses, mais je tiens quand même à vous remercier de m'avoir donné cette occasion. C'est symbolique pour moi, mais c'est très important. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers d'État, chers collègues, confrères, chers amis étudiants. La réforme, comme le professeur Goffo l'a dit, est assez importante. Et quand il m'a parlé de cette réforme, j'étais vaguement déjà au courant. Je me suis dit, mais satisfaction équitable, en quoi cela peut directement intéresser le Conseil d'État? Et puis j'ai lu les travaux préparatoires. Et pas tous les documents, pas les annales parlementaires, mais quand même j'ai lu l'essentiel, et sauf erreur de ma part, on ne se réfère pas dans ces travaux préparatoires explicitement à la satisfaction équitable prévue par la Convention européenne des droits de l'homme, mais tout de même, et je voudrais d'emblée relever l'importance de cette satisfaction équitable au titre de la Convention européenne des droits de l'homme, pour la mise en œuvre de la réforme du Conseil d'État. Évidemment, la satisfaction équitable, on va en parler, telle qu'elle est prévue à l'article 41 de la Convention européenne des droits de l'homme, se rapproche de ce qu'on a dit dans les travaux préparatoires, à savoir que la réparation, la fameuse indemnité réparatrice qui a été insérée par l'article 11 bis, dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État, à la faveur de la récente réforme de l'État, on a évoqué dans les travaux préparatoires un juste équilibre entre les intérêts privés et l'intérêt public. Mais cette idée, vaguement, se trouve déjà dans l'article 11, le fameux contentieux de l'indemnité, qui a été réduit à une portion congrue au fil du temps, à la faveur de l'extension de la jurisprudence judiciaire sur le pied de l'article 382 du Code civil. Là, il y avait une idée déjà d'un juste équilibre entre les droits de l'individu et l'intérêt général, ce qui implique que l'indemnité ne doit pas nécessairement être intégrale. Et pourtant, dans les travaux préparatoires, on a dit, mais non, ce n'est pas l'indemnité de l'article 11 qu'on vise en tant que tel, donc cette indemnité réparatrice semble devoir revêtir des configurations propres, comme vous l'avez dit, qui seront forgées par la jurisprudence du Conseil d'État. Alors, en quoi la satisfaction équitable de l'article 41 de la Convention a une importance ici? Pour une raison qui me paraît d'abord évidente. La Cour européenne des droits de l'homme peut exercer un contrôle sur l'octroi par le Conseil d'État de l'indemnité réparatrice. Comment? Dans la pratique, comment ça risque de se passer? Supposons que l'illégalité constatée, il faut que d'abord, pour accorder l'indemnité réparatrice, que le Conseil d'État constate, relève donc une illégalité et qui emporte violation. Cette illégalité peut consister en la violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Et supposons maintenant que soit le requérant ait soulevé un moyen déduit de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme, soit que, on ne sait jamais, la Convention. On soutient que la Convention européenne des droits de l'homme, du moins certaines de ses dispositions, sont d'ordre public et que le Conseil d'État soulève d'ordre public ce moyen et annule. Il y a lieu après à l'indemnité réparatrice. Supposons que l'indemnité réparatrice telle que le Conseil d'État va l'accorder ne corresponde pas aux paramètres critères arrêtés par la Cour de Strasbourg quant à l'octroi de la satisfaction équitable. Qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, le justiciable est censé avoir épuisé les voies de recours internes,
parce que le Conseil d'État, il n'y a plus de procureur. Il est frustré. Il estime que l'indemnité n'est pas suffisante du tout au regard des critères de la Cour de Strasbourg. Il a introduit un recours devant la Cour de Strasbourg. Pour que ce recours soit recevable, il faut que le justiciable prouve qu'il est victime de la violation de la Convention. Or, être victime de la Convention, comme l'exige l'article 34 de la Convention, et être victime de l'octroi insuffisant d'une réparation, c'est la même chose. Donc, du fait qu'il y avait que l'indemnité octroyée ne correspond pas aux critères de Strasbourg, il sera considéré comme victime, sa requête sera déclarée recevable. Et si la Cour de Strasbourg constate que la réparation n'est pas adéquate, bien il y a violation de la Convention et l'octroi, cette fois-ci, par la Cour de Strasbourg, une satisfaction équitable qui risque d'être plus élevée. Mais la Cour ne va pas constater la violation de l'article 41, mais la violation de l'article de la Convention qui maintient le justiciable dans l'état de victime toujours. Et qu'il n'y a pas eu de redressement, la Cour de Strasbourg constatera la violation, par exemple, de l'article 6 sur le procès équitable ou du protocole additionnel sur le droit de propriété. Donc, le Conseil d'État doit forcément être attentif aux paramètres généraux, aux critères dégagés par la Cour de Strasbourg. Alors, deuxième remarque. Il y a, dans l'avis de la section de législation du Conseil d'État, une remarque assez intéressante. Le Conseil d'État dit, oui, ce sera une indemnité qui ne sera pas nécessairement intégrale, contrairement à l'indemnité octroyée par le juge judiciaire. Mais dit le Conseil d'État, si le Conseil d'État est trop parcimonieux, il y a un autre risque, c'est que les justiciables ne vont pas demander l'indemnité réparatrice au Conseil d'État, préféreront aller, comme dans le système actuel, enfin, le système antérieur, préféreront agir devant le juge judiciaire, en espérant une indemnité intégrale. Mais c'est ce que la réforme veut précisément éviter. Donc, le Conseil d'État est conscient de cette section de législation, du moins, est conscient de ce risque le Conseil d'État se trop par ses milieux, il y a un risque du côté de Strasbourg, il y a un risque que la réforme rate son objet. Carrément, puisque les justiciables vont continuer à aller devant le juge judiciaire. Alors, évidemment, c'est au Conseil d'État d'arrêter les critères. Nous ne pouvons que spéculer à ce stade-ci, mais comme je crois pouvoir dire que les critères de la Convention vont jouer plus ou moins un rôle, c'est pourquoi je suis aujourd'hui devant vous et je vais essayer de vous exposer ces critères de la Cour de Strasbourg. D'emblée, je dois vous dire que ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une tâche facile et d'ailleurs, la littérature sur le droit de la Convention est extrêmement foisonnante, extrêmement riche, sur tous les articles. S'il y a un article sur lequel il y a très peu de littérature, pas de littérature, c'est l'article 41 sur l'octroi de la satisfaction équitable. Les chercheurs, les praticiens, je crois que cet article les rebute. Les rebute. Pourquoi? Mais parce que la jurisprudence, de premier abord, est très erratique. Il est très difficile de dégager des critères précis. Et c'est normal. C'est très normal. Puisqu'on dit au juge, quand vous allez octroyer une satisfaction équitable, vous allez statuer en équité. Mais par définition, l'équité, c'est une conception qui ne se prête pas à une conceptualisation absolue, mais qui s'applique au cas par cas, au gré des espèces. Donc, malgré les nombreuses critiques qui sont adressées sur ce point à la Cour de Strasbourg, par les États, par une certaine doctrine, et je crois que ces critiques sont injustifiées, eh bien, il y a un flottement dans la jurisprudence qui est très empirique. On peut quand même dégager quelques grands principes, quelques orientations, ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, première chose, quel est le texte d'abord? Je voudrais vous lire le texte, c'est très important.
Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la haute partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, alors la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. Donc, texte très souple, texte qui est inspiré par la jurisprudence de droit international public en matière de responsabilité internationale, et notamment de la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale dans l'affaire de l'usine de Chorzów de 1938. Plusieurs principes se dégagent de ce texte. Premièrement, il faut un constat de violation de la Convention, qui se rapproche un peu de illégalité ou faute. Violation de la Convention. Deux, le droit interne de l'État ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation. De quoi parle-t-on ici? Mais c'est le principe du droit international, public, ou permanent de justice internationale. S'il y a une violation, il faut une restitution in integro, restituer les choses dans leur pristine état, réparation en nature. Ça, c'est la manière dont l'État, le droit interne de l'État doit permettre de réaliser. Si tel est le cas, ben, la Cour ne va pas octroyer une satisfaction équitable. Trois, il faut qu'il existe un préjudice matériel et ou moral. Les deux donnent lieu à réparation. Ensemble ou isolément. Parfois, la Cour ne parvient pas à distinguer un préjudice matériel d'un préjudice moral. C'est une autre difficulté. Alors, elle statue pour les deux. Elle dit, voilà, je vais statuer pour les deux une somme qui couvre les deux. Souvent, elle statue séparément. Elle peut octroyer une réparation pour le préjudice matériel dans la même affaire et refuser pour le préjudice moral. Nous allons voir tout ça. Quatre, un lien de cause à effet entre la violation relevée et le préjudice vanté. Voilà les quatre grands principes. Alors, comme le texte le dit, s'il y a lieu, donc la Cour dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour accorder la réparation et comment l'accorder, selon quelle modalité. Elle dispose d'une grande latitude. Et je vais vous citer, c'est la dernière fois encore un texte, ce sont les instructions pratiques du président de la Cour au requérant qui sont publiées en annexe au règlement de la Cour qui est disponible sur le site web de la Cour. Alors voici ce que dit le président et qui résume très bien la jurisprudence dans toutes ses finesses, la jurisprudence de la Cour. Alors ce que dit le président à l'attention des requérants potentiels, l'indemnité allouée au titre de l'article 41 doit être équitable, just dans le texte anglais. Compte tenu des circonstances de la cause, voilà, on y revient, approche empirique. La Cour doit donc prendre en considération les caractéristiques de l'affaire dont elle se trouve saisie. Elle peut estimer que le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. Et ça arrive souvent. Ça, d'ailleurs, c'est un moyen de défense habituel de l'agent du gouvernement devant la Cour de Strasbourg, qui va dire dans toutes les affaires, un simple constat suffit, il n'y a pas lieu d'approuver une satisfaction. Donc, un simple constat suffit pour tel ou tel chef de préjudice allégué, et donc il n'y a pas lieu d'accorder une réparation pécuniaire. La Cour peut aussi déceler, dit le président, des motifs d'équité pour octroyer une somme inférieure à la valeur du dommage réellement subi ou aux frais et dépens effectivement exposés. Pour les frais et dépens, surtout les honoraires d'avocat, c'est quasi systématique. La Cour coupe. Et la Cour peut n'accorder aucune indemnité. Ce peut être le cas, par exemple, si la situation dénoncée, le montant du dommage ou le niveau des frais sont imputables à une faute du requérant lui-même, entre autres. Pour fixer le montant accordé, dit le président, finalement, la Cour peut envisager aussi les situations respectives du requérant
partie lésée par une violation et de l'État contractant. Voilà. Ce qu'on revient dans les travaux préparatoires sur l'indemnité réparatrice, cette balance. L'État contractant, dit le président, responsable de l'intérêt général. Donc, la Cour doit prendre en considération l'intérêt général, mais pas aveuglément se focaliser sur le préjudice du justiciable, du requérant. Enfin, dit le président, la Cour prend d'habitude, et c'est nouveau, c'est le président qui le dit, mais c'est vrai, la Cour prend d'habitude en compte la situation économique de l'État mis en cause. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la situation en temps de crise, c'est important. La situation économique de l'État en cause, on peut l'approcher de deux façons. Il y a 47 pays membres du Conseil de l'Europe, il y a des pays riches, comme vous le savez, et ce n'est pas l'Union Européenne, il y a plus que l'Union Européenne, il y a des pays pauvres. Alors, la première chose, quand la Cour fixe sur le montant de sa situation équitable, elle ne va pas le fixer de la même manière pour Moldova que pour la Suisse, par exemple. Le niveau de vie, le produit national brut par tête d'habitant va entrer à l'investissement. La Cour ne le dit jamais, les motivations sont très, très sommaires, mais le niveau de développement du pays en cause entre en cause. Une autre interprétation, c'est que la Cour tient compte de l'état de crise qui est au sein d'un État donné, lourdement endetté. La Cour prend en considération ces facteurs aussi. Enfin, un État lourdement endetté qui est sous le contrôle du fameux triumvirat, des autorités internationales, évidemment la Cour va, parfois les montants sont énormes, tiendra compte du danger pour l'équilibre des finances publiques. C'est ce que ça veut dire aussi. Alors, maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet et vous illustrer les fameux critères jurisprudentiels. Premier principe, il n'y a pas lieu à l'octroi d'une satisfaction équitable si le droit interne offre la possibilité de la remise des choses dans leur pristine état, réparation en nature. Je prends un cas qui est célèbre, qui concerne notre pays, l'affaire Prestos Naviera Companeros contre Belgique. C'est un arrêt de 1997, et dans cette affaire est en cause une loi interprétative belge qui fait échec à un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation. De quoi s'agit-il? Il y a beaucoup d'accidents, d'avaries au port d'Anvers. Il y en a. Il y a toujours, il y en aura toujours. Et quand de gros navires sont impliqués, les sommes en jeu sont considérables. Normalement, la jurisprudence de la Cour de cassation, interprétant l'article 1382 en matière, excluait toute responsabilité de l'État pour les fautes de pilotage. Parce que ces accidents surviennent à la suite des fautes de pilotage. Quand ils entrent dans le port, le gros navire s'abandonne à la sagesse d'un pilote, parfois qui est imposé, et ces accidents sont dus souvent à la faute de pilotage. Je crois apercevoir dans la salle, je crois, déjà un des avocats qui était impliqué dans cette affaire, donc je parle sous son contrôle, je ne peux pas dire n'importe quoi, et qui n'hésite pas à intervenir si je dis des bêtises. Donc, dans cette affaire, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence dont il découle que, désormais, l'État est responsable des fautes de pilotage. D'où une avalanche de recours devant le juge judiciaire, sur base de 1382, pour réclamer des indemnités dont le montant s'élève, et j'ai à l'époque c'était 1 milliard devant la Cour, les requérants ont présenté une demande de satisfaction équitable, c'était 1 milliard 600 millions, je crois, de francs belges, donc c'est facile de convertir, c'est 400 millions d'euros. Des années 1997, avec l'inflation calculée à l'inflation. C'est une des affaires où la Cour a été confrontée à une demande colossale. Et c'était d'autant plus sérieux cette affaire qu'entre temps, le pilotage avait été régionalisé. Donc, qui était en cause, ce n'était pas l'État belge, c'était la région flamande, dont le budget est encore plus réduit que celle d'un royaume de... fut-il riche quand même de 10 millions d'habitants.
Et dans cette affaire, donc, l'État belge a réagi. C'est une des premières lois.
Et quelqu'un ici, encore dans la salle, qui connaît cette matière énormément bien en matière de loi de délégation, je crois que c'était une des premières. Oui, il y a eu l'affaire des centimes additionnels du Brabant avant, mais donc c'était une des premières affaires de validation législative devant la Cour d'arbitrage à l'époque. Et la Cour, évidemment, comme toute juridiction suprême, souvent, l'intérêt financier de l'État, c'est comme ça. En Belgique, c'est partout, les juges se montrent très, très rétifs à, n'est-ce pas, à sévir complètement. Donc la Cour a estimé qu'il y avait des motifs impérieux, n'est-ce pas, qui justifiaient une telle loi interprétative qui, de facto, était rétroactive, comme vous savez.
Là-dessus, les voix de l'Ocul Internet ont été épuisées, les requérants, 26 armateurs, se sont présentés devant la Cour de Strasbourg, à l'époque d'abord devant la Commission et puis la Cour de Strasbourg, et la Cour de Strasbourg a relevé une violation. La Cour de Strasbourg a relevé une violation de l'article 6 sur le droit imprescriptible, en disant vous étiez parti à la course et vous avez modifié unilatéralement les règles du jeu en votre faveur. L'égalité entre les armes entre les parties a été rompue en votre faveur, en leur défaveur, violation de l'article 6. La Cour aurait pu constater une violation du droit de propriété prévu à l'article 1er additionnel. Pourquoi elle n'a pas fait? Et ça, je suis sûr. Pourquoi elle n'a pas fait? Parce qu'elle a eu peur. Si elle avait constaté une violation du droit de propriété, satisfaction équitable. Elle a préféré se placer sur l'angle de l'article 6, procès équitable. Là, ça devient plus délicat. Ce qui a permis à la Cour de dire je n'octroie pas du tout, pas de satisfaction équitable. Pourquoi? Eh bien, dès que la Cour, quand la Cour accordait une satisfaction équitable, elle le faisait en deux étapes. Dans un premier arrêt au fond, elle constatait une violation. Et puis elle disait l'affaire n'est pas en état. Il me faut soumettre des données, il faut que les parties s'accordent, peut-être qu'il y aura un règlement amiable. Elle fixait un délai de 3-4 mois, et puis au bout de 3-4 mois, voilà, les parties réapparaissaient, à l'appui avec des papiers supplémentaires, etc. De nouveau, et la Cour à ce moment-là statuait. Et entre-temps, après l'arrêt de violation de l'article 6 par la Cour, la jurisprudence, c'est la belge, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appliqué la fameuse doctrine de l'autorité de la chose interprétée. Cette doctrine qui était contestée dans les années 80, qui commençait à s'imposer à l'époque. Et de quoi s'agit-il? En Belgique actuellement, dès l'époque, je me tourne plutôt vers nos amis étudiants, quand il y avait une violation de la Convention, si c'est possible, parce qu'il y a des cas où c'est pas possible, mais enfin j'entre pas dans les détails, le juge belge va immédiatement écarter la norme qui est à l'origine de la violation et va appliquer la solution de la Cour. Puisque, d'après l'arrêt, le SCI, vous savez, la Convention est directement applicable et donc la Convention sera appliquée, la loi incriminée par la Cour sera écartée et on va appliquer la jurisprudence de la Cour immédiatement au cas d'espèce. Bon, qu'avait dit la Cour? Elle avait dit cette loi, donc il y avait entre-temps eu des décisions de juge judiciaire qui avaient écarté la loi interprétative. Et la Cour a dit, eh bien, mesdames, messieurs les référents, vous avez votre réparation en nature qui a été réalisée par le juge belge. Vous avez droit à aucune réparation. Parce que moi, je ne peux accorder la satisfaction équitable que quand le droit interne ne permet pas une réparation en nature, vous l'avez eue. La loi a été écartée par le juge belge. Il y avait un requérant, un armateur. Malheureusement, lui, son cas n'était pas pendant devant les juges belges. Son cas avait été clôturé par une décision collée en force de chose jugée. Et lui, il a eu droit à une réparation. Mais quelle réparation? Dans son cas, on avait appliqué avec une décision collée en force de chose jugée une loi déclarée par la suite contraire à la Convention. Il n'avait pas pu se retourner contre l'État. C'est la réparation d'une perte de chance. Donc la Cour a dû se dire, si cette loi
n'avait pas existé, s'il avait pu se retourner contre l'État belge, est-ce qu'il aurait gagné le procès? C'est les litiges qui étaient pendants. Pour gagner le procès, il faut démontrer l'existence de toutes les conditions de l'article 1382. Dans ce genre d'affaires, c'est parfois très compliqué. La Cour a dit donc, je n'ai pas accordé une réparation intégrale, mais c'est une perte de chance probable. Et la Cour ne suit pas. Aucune justification. La Cour dit, il est équitable de lui accorder la moitié de ce que la somme réclamée. Voilà, comme ça. Sans aucune motivation. Oui, mais comment vous allez motiver ça? Je ne suis pas magistrat, mais c'est très difficile de motiver. Si vous entreprenez un effort de motivation, vous risquez alors de, n'est-ce pas, les critiques vont prendre la plume, à gauche, à droite, et ne vous en flottez plus. La Cour dit, voilà, c'est en équité, c'est comme ça. Moitié de son valeur.
Donc, voilà un exemple où le droit interne offre immédiatement une réparation en nature. C'est la raison pour laquelle la Belgique n'a pas eu de gros problèmes en matière de situation équitable, je vous dirais, d'emblée, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Puisque la Convention est fidèlement appliquée, voilà une des raisons. Mais il y en a d'autres, nous allons voir maintenant. Il y a eu d'autres cas qui ont posé pas mal de problèmes à la Cour. Oui, en ce qui concerne l'affaire Pressos Naviera, je dois quand même attirer aussi l'attention sur un point qui peut apparaître comme un détail, mais nous allons revenir là-dessus. Et la satisfaction équitable recouvre aussi les frais exposés pour obtenir le redressement de la violation de la Convention. Non seulement devant le juge national, les frais d'avocat pour obtenir la cessation de la violation de la Convention, mais devant la Cour de Strasbourg. Les deux procédures sont couvertes sous le titre « frais et dépenses qui font partie de la satisfaction équitable ». Alors ici, dans l'affaire Fressos Naviera contre Nevos, la Cour est assez exigeante. En matière de frais et dépenses, la Cour exige qu'on lui soumette une forme élaborée, en ventilant sous différents publics les différentes dépenses avec lesquelles est justificative. En fait, frais et dépenses, c'est souvent les honoraires d'avocat, hein. Les voyages à Strasbourg, les petites choses, ça ne pose pas de problème. Ce sont les honoraires d'avocat. Et là, la Cour refuse d'allouer des sommes pour les honoraires d'avocat dans l'affaire Pressos, pour le cas du 26e requérant. Mais pour une raison très simple, ce 26e requérant a dû, voilà, ça, on ne voit pas ça dans l'arrêt non plus, mais je crois, a dû soumettre un état d'honoraires global. Parce que ces armateurs, en matière maritime, tous les navires sont assurés. Et quand il y a un contentieux de cette sorte-là, c'est l'assureur qui reprend, qui diligente la défense de tous les armateurs, en ce compris les avocats, sont choisis par évidemment les armateurs eux-mêmes, je suppose, mais c'est l'assureur joue un grand rôle, et c'était le cas dans cette affaire. Et la Cour dit, écoutez, au 6e requérant, vous m'avez soumis un état d'honoraire, mais quelle était votre part individuelle? C'est très difficile pour ce requérant de dégager dans cette vaste affaire, de justifier sa part individuelle Et donc c'est refusé. Il n'a pas eu le droit au remboursement des honoraires. Il a eu droit à la réparation d'une perte de chance, préjudice moral. Oui, voilà. Là aussi, le 26e requérant, j'ai subi un préjudice moral. Eh bien, la Cour dit, un simple constat de la violation de la Convention répare votre préjudice moral. C'est souvent comme ça. Et la Cour ne justifie pas non plus. Il faut bien reconnaître que dans cette affaire, le regretté maître Dalp m'avait dit un jour, depuis 25 ans, je m'occupe de cette affaire. Et maintenant, la Cour nous dit de nous représenter devant le juge national. Maintenant, pour obtenir une réparation. Ils avaient demandé à la Cour. Donc, oui, c'est vrai que le juge belge, maintenant, va appliquer la solution de la Cour. Mais substituez-vous au juge belge, voilà notre pièce justificative, accordez-nous de la satisfaction équitable. Ne nous renvoyez pas encore. C'est la procédure déjà durée depuis 20 ans. Bien, la Cour l'a renvoyé devant le juge national. Ils auront voir, c'est une tendance qui se renforce maintenant dans la Cour, parce qu'elle est débordée. Évidemment, pour vérifier toutes ces rétentions, la Cour ne voulait pas.
carrément renvoyé au juge d'instruction.
Alors, maintenant,
je vais vous exposer une deuxième catégorie d'affaires où la Cour répare totalement et même va au-delà. Alors, ce sont les fameuses affaires de privation arbitraire de propriété. Ces cas ne concernent pas la Belgique, puisque, sauf erreur de ma part, en Belgique, il n'y a pas ce genre de privation de propriété. Enfin, bref, on ne sait jamais, je m'excuse. Mais c'était des cas que la Cour a qualifiés ouvertement de privation arbitraire de propriété. En fait, selon moi, c'était des voies de fait. Donc, qu'est-ce qui était en cause? C'était en Italie. En Italie, l'État occupait le terrain d'un particulier et commençait à y construire un ouvrage d'utilité publique, souvent une école, un logement social. Et ceci sans décret d'expropriation, rien. Donc, c'était au particulier alors de se pourvoir devant le juge. En vue de faire consacrer son droit de propriété, et alors le juge constatait que, par le fait de facto, il avait été privé de sa propriété, et lui a alloué une indemnité, souvent insuffisante. Une indemnité ridicule. Et parfois, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, les délais de prescription étaient tellement courts que... Et quand le particulier victime de la voie de fait saisissait le juge, il y avait déjà prescription. Donc, il était complètement spolié de sa propriété arbitrairement. Alors, dans ces affaires, la Cour s'est vraiment fâchée. Non, ça, on peut le dire. Donc, la Cour prend les critères suivants. La valeur vénale, marchande, du terrain au moment de l'occupation arbitraire par l'État. La plus-value, entre-temps, parce que la prise de possession, il y a eu 20 ans, la valeur actuelle, plus la privation de jouissance, la personne a été privée de sa jouissance, plus le coût des constructions. Le coût des constructions est inclus dans l'indemnité. Construit arbitrairement sur la propriété d'autrui. Et on arrive à des sommes astronomiques. Pour vous donner une idée, dans l'affaire, je crois, Carbonara, oui, affaire qui date de 2005, je crois. Oui. Alors, le terrain qui a été occupé en 1970, était évalué à ce moment-là à 13 000 euros. En 2002, quand la Cour ordonne une expertise, c'est cela. Dans toutes ces affaires, la Cour a ordonné une expertise. Alors, sur ce point-là, son règlement, dans la Convention, il n'y a aucune disposition. Le règlement de la Cour est très vague. La Cour, parfois, demande aux parties chacun de choisir un expert. Donc, il dispose de deux rapports d'expertise. Soit la Cour désigne de commun accord, si les parties sont d'accord, une commission d'experts. Enfin, il y a plusieurs formules qui sont possibles. Donc, l'expert désigné dans cette affaire de commun accord par les deux parties avait évalué le terrain en 2002, qui coûtait en 1970 13 000 euros, à 493 000 euros. Donc, multiplié par 40 en 30 ans. La valeur multipliée par... C'était l'étude du marché qui a posé cette conclusion à l'expert. Alors, la plus-value du terrain apportée par l'existant du bâtiment, 891 000 euros. La Cour arrive finalement. Le terrain qui coûtait en 1970, je répète, 13 000 euros, le requérant obtient finalement, non jouissance du terrain, 253 000 euros. Bâtiment, toute construction, 190 000. Le tout, 1 400 000 euros. Alors, c'est énorme. Et ce qui a suscité des critiques, Voilà, la Cour de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la Cour des riches. Doctrine, on a commencé à entendre des voix, c'est la Cour des riches. Évidemment, la Cour s'appelle Cour des droits de l'homme. Et donc, psychologiquement, les gens s'attendent à ce que la Cour protège les personnes fragilisées et qu'on n'assiste pas à des scénarios où ça tourne, n'est-ce pas, une sorte de, de casino. Mais pourtant, comme un magistrat de la Cour l'a dit récemment dans une publication, elle a dit que la Cour ne fait qu'appliquer les critères d'indemnisation qu'elle a fixés en cette matière. Alors, la Cour a justifié cette rigueur par la considération suivante. La Cour a opéré une distinction entre absence d'indemnité suffisante en présence d'une expropriation régulière. C'est-à-dire qu'il y a un décret d'expropriation, les garanties juridictionnelles sont respectées, le montant de l'indemnité est fixé par un juge au terme d'un procès, d'une procédure tout à fait équitable, et à tort ou à raison, le justiciable estime que l'indemnité n'est pas suffisante et porte l'affaire devant la Cour de Strasbourg. La Cour a dit, dans ces cas-là, ma jurisprudence est que l'indemnité peut ne pas être intégrale. Il est très souple dans ces cas-là. Mais dans ce genre d'affaires de voie de fait, la Cour était furieuse, elle a fait preuve d'une rigueur, vraiment à toute épreuve, et on aboutit à aboutir à des sommes astronomiques, comme je viens de citer dans cette affaire. Alors, la Cour a aussi commencé à réparer le préjudice moral dans ces affaires, en tenant compte de l'état d'angoisse, de frustration dont ces propriétaires dépouillés pendant longue période sont victimes. Et là, la Cour accorde, dans cette affaire, 200 000 euros à la famille victime, donc au titre de préjudice moral, hein, victime de cette expropriation. En plus de 1,5 million, ils obtiennent 200 000 au titre de préjudice moral. Les frais d'expertise, par contre, sont très modiques. 10 000 euros. Dans toutes les affaires, on voit ce genre d'affaires, l'expert présente un état d'honoraire, 10 000 euros, la Cour entérine immédiatement. Par contre, en ce qui concerne les frais d'avocat, dans ce genre d'affaires, dans le jargon du barreau, on appelait ça le coût de la transaction. Plus le montant est important, plus il est normal que les avocats réclament des honoraires qui sont en proportion raisonnable avec les montants en jeu, si pas bien récupérer ce montant. Et donc, dans ces affaires, la Cour fait preuve de compréhension et donc ne rejette pas comme excessif des demandes de 60 000 euros de frais d'avocat. Elle réduit, généralement. Elle réduit de 30-40%. Mais quand même, il laisse des sommes confortables pour les avocats pour se faire rémunérer dans ce genre d'affaires. Alors une autre question s'est posée devant la Cour. Est-ce que le préjudice moral des personnes morales peut être réparé? Il y a eu des sociétés qui ont été victimes de violations du délai raisonnable dans des procédures de récupération de créances ou en matière d'urbanisme, en matière de droit de propriété. La Cour a accepté le principe que on peut envisager un préjudice purement moral dans le chef de société, encore une fois, dans le jargon habituel de la Cour, dans certaines circonstances. Et la Cour n'a pas hésité à accorder ce genre d'indemnité, par exemple dans un cas où la société avait subi des retards énormes dans l'occupation de sa créance. La Cour tire l'attention sur les entraves au fonctionnement de la société, mais aussi l'angoisse et la frustration dont étaient victimes les dirigeants de la société eux-mêmes. Donc, elle perce le voile de la personnalité morale, va rechercher, comme un magistrat détaché auprès de la Cour récemment à Luxembourg me l'a dit, il m'a dit, et la Cour recherche, abstraction faite du voile de la fiction, les dirigeants qui ont été très perturbés par ce genre de choses, et en fait, c'est leur angoisse qui est réparé au titre du préjudice moral, finalement, même si la Cour ne le dit pas. Euh, Il y a eu une autre évolution importante dans la jurisprudence de la Cour en matière de satisfaction équitable. La Cour a commencé à être saisie des affaires qui la gênaient fort. Des affaires, c'est-à-dire groupées, qui impliquaient des montants colossaux. Et pourquoi? Dans deux types de cas. Dans les affaires de violation systématique ou structurelle, les affaires d'expropriation induite italienne reçues, je sais, tout le temps. Et il y avait de nouvelles requêtes qui arrivaient devant la Cour. Dans d'autres affaires aussi, ce sont des violations structurelles de la Convention. L'État ne prend pas les mesures. L'État paye la satisfaction accordée, équitable accordée, mais ne prend pas les réformes législatives. Donc les violations continuent. La Cour est inondée. Et la Cour a inventé la technique la plus jurisprudentielle, ce n'est pas dans la Convention, d'arrêt pilote. C'est-à-dire que la Cour, dans un arrêt, dans un cas test, prend un cas test, il suspend l'examen de tous les autres dossiers similaires, aussi de ce cas, dans ce cas-là, la Cour accorde la satisfaction équitable, mais toutes les affaires similaires, l'examen est suspendu. Dans l'arrêt de condamnation, la Cour s'adresse, dans le dispositif de sa décision, à l'État concerné, et lui indique des mesures propres à redresser la violation structurelle de la Convention pour tuer à la source des violations les affaires répétitives. Et dans ces arrêts, la Cour énonce des critères pour l'octroi de la satisfaction équitable. Je ne crois pas que la Belgique n'a jamais été l'objet d'arrêts pilotes. Donc le Conseil d'État probablement n'aura pas la chance de disposer de critères précis. C'est dans des arrêts pilotes que la Cour les indique pour une catégorie précise de cas. La Belgique n'est pas directement jusqu'à présent concernée par de telles violations. Alors, la jurisprudence de la Cour en matière d'expropriation arbitraire, de prise de possession arbitraire de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg a suscité des critiques. La Cour a été sensible à cela et donc a opéré un revirement de jurisprudence. On n'appelle pas ça, on appelle rarement à Strasbourg ça un revirement de jurisprudence. On préfère plutôt, conformément à la technique anglo-saxonne, à distinguer une affaire des autres. En disant, mais on n'est pas dans la même affaire. Dans la même. Mais vous regardez bien, c'est tout à fait similaire. Imaginez, vous dites, tu es à la gauche, toi. Non, la Cour trouve de petits détails, etc. Mais c'est une affaire différente. Donc, comme c'est une affaire différente, il y a une nouvelle solution. Et dans un arrêt Guissot-Galissey, la Cour a opéré un mouvement de justice et a dit qu'elle ne prendrait plus en considération dans l'évaluation du préjudice, le coût de construction du bâtiment sur le terrain, puisque ça, c'est vraiment, c'était une sanction punitive. En fait, la Cour voulait punir l'État. C'est-à-dire, on était vraiment un peu près de la jurisprudence américaine qui octroie des dommages punitifs. Donc, et la Cour a dit, j'évaluerai la valeur du terrain, non pas en fonction du marché existant au moment où je serai moi à la Cour, mais en fonction du marché existant au moment de la dépossession, en actualisant ce montant en fonction de l'inflation, pas de la plus-value. C'est ce critère que la Cour a commencé à appliquer. Donc on prend la valeur du marché, du terrain, à l'époque, il y a 20 ans, on l'actualise par le taux de l'inflation, et on ne regarde plus la valeur du terrain au moment où le juge statue de Strasbourg après 25 ans. Donc il y a eu ces deux composantes essentielles de la jurisprudence qui ont subi une modification dans le sens de fixation plus raisonnable d'indemnité. Alors, en ce qui concerne les atteintes ordinaires aux droits de propriété, où il n'y a pas d'arbitraire de la part de l'État, où il y a une prétendue insuffisance de la réparation, eh bien, la Cour a réservé plusieurs cas de figure. Peut y avoir une réparation partielle dans des cas souvent où l'État se livre à des réformes de nature économique et sociale. Là, le particulier doit se montrer disposé à bénéficier d'une indemnité vraiment parfois insuffisante, partielle, sur l'autel de la justice économique ou sociale. En matière de logement, de crise de logement, par exemple, c'est la jurisprudence de la Cour. En matière, et en d'autres matières.
par exemple, aussi en matière de catastrophes naturelles.
Parce que, oui, la Cour s'est mêlée des affaires de catastrophes naturelles. Je devrais me dire, mais sur quelle base? Mais il y a des dispositions dans la Convention, dans la limite, l'inviolabilité du domicile, la protection du domicile, et puis il y a toujours la portée très large que la Cour a assignée au droit à la protection des biens dans le protocole additionnel. Donc, quand il y a une catastrophe naturelle, et quand donc des maisons, des infrastructures, des propriétés des biens, propriétés des particuliers subissent des dommages graves, il reproche à l'État de ne pas avoir pris des mesures préventives efficaces pour prévenir ces dommages. Or, dans la jurisprudence de la Cour, l'État n'est pas seulement tenu à des obligations d'abstention, de ne pas porter atteinte aux droits, mais la Cour a revêtu presque l'ensemble de la Convention d'un tissu d'obligations positives à l'effet de prévenir les violations de la Convention. Et c'est par ce biais-là que la Cour recherche la responsabilité de l'État dans des catastrophes naturelles. Et là, sa jurisprudence est assez souple, je dirais réaliste. Dans des affaires, par exemple, de coulées de boue, les maisons sont ensevelies, la Cour a tenu compte du fait que le préjudice et l'absence de mesures adéquates reprochées à l'État et le préjudice, il n'y avait pas un lien certain de causalité entre les deux. Donc, elle n'a accordé que des réparations très très parcellaires. Souvent, la Cour tient compte d'autres mesures que l'État a prises, par exemple le fait de reloger les personnes, même si ces personnes sont relogées dans des infrastructures de loin inférieures au confort dont ils jouissaient auparavant. Donc, la Cour est assez souple et ne n'impose pas des obligations financières et autres trop rigoureuses. C'est là que joue le juste équilibre, voilà, entre l'intérêt général et l'intérêt privé, et dont parle les travaux préparatoires de la réforme sur le Conseil d'État. Alors, il y a une, et je vais terminer par là, il y a une tendance récente dans la jurisprudence de la Cour. La Cour est assaillie, vous savez, elle a énormément, beaucoup d'arriérés judiciaires, même si ces derniers temps, il y a des progrès sensibles tendant à résorber l'arriéré, mais l'arriéré est toujours colossal. Surtout, nous avons au sein de l'ancienne Convention européenne de droit de l'homme est terminée. Et dans les années d'or, 70, 80, et tous les membres étaient des États démocratiques. Puis, avec l'élargissement à l'Est, il y a eu deux gros États. Et il y a un État qui est membre depuis le début, qui est un des plus grands violateurs, un des plus gros clients, qui avait été admis dès le début. Et puis on a admis deux gros États encore après l'élargissement, dont il y a dans le système de la Convention aujourd'hui des poches de violation en puissance de la Convention qui fournissent à la Cour des centaines milliers de requêtes pour ceux qui étudient la Convention. C'est à la fois, je suis cynique, c'est réjouissant, parce qu'il y a de belles affaires qui fournissent le droit de la Convention, mais c'est très embêtant pour la crédibilité du système de la Convention, n'est-ce pas, et surtout l'arrivée qui la provoque dans le système de la Convention. Donc, le principe maintenant cardinal, n'en déplaise aux magistrats nationaux, parce qu'eux aussi ils souffrent parfois de l'arrivée, bien sûr, de renvoyer au maximum possible, en vertu du principe de subsidiarité, aux magistrats nationaux. Bon, pour la crédibilité de la Convention, si ce pays en cause applique fidèlement la Convention, tant mieux. Mais si vous renvoyez à des juges nationaux dans certains pays où le système est très fragile, et ça, je peux vous en expliquer, ensemble, ces trois pays que je ne vais pas mentionner représentent 300 millions sur un espace de 700-800 millions. Donc, bon, mais voilà, on se dirige vers cela. Et la Cour a commencé à dire, avant d'octroyer et la satisfaction est faite, méfiez-vous. L'agent du gouvernement m'a montré plusieurs décisions qui octroient une réparation tout à fait adéquate. Pourquoi vous n'avez pas saisi? Il y a une affaire récente contre les Pays-Bas et le justiciable lui dit, enfin, je ne suis pas obligé de saisir d'abord le juge national, je peux directement venir chez vous. Non, la Cour a tendance à renvoyer en disant poursuivez vos intérêts matériels par des actions en réparation devant le juge national.
Il y a la... Vous savez que la Cour subit maintenant un processus de réforme.
Il y a eu plusieurs protocoles additionnels qui ne traitent pas du problème de la satisfaction équitable. Mais il y a eu un groupe des sages en 2007 qui a fait un rapport. Dans ce rapport, le groupe des sages a proposé que lorsque la Cour constate une violation, la réparation soit accordée par une juridiction que chaque État va désigner en son sein. La Cour elle-même, désignée en son sein, qui va appliquer les paramètres généraux dégagés par la jurisprudence de la Cour. La Cour s'est montrée très réticente, enfin, très hésitante par rapport à cette proposition. Et depuis lors, il n'y a pas trop d'avancée en cette matière. Ce que la Cour a fait par contre, en son sein, elle a créé une cellule de satisfaction équitable. Donc, il y a des juristes spécialisés au sein de la Cour qui élaborent des barèmes, semble-t-il, de réparation, surtout en matière de dépassement du délai raisonnable. Là, il paraît qu'il y a des barèmes assez rigides, mathématiques. Bon, c'est du travail, mais ces travaux ne sont pas très transparents, donc nous restons sur notre faim quant aux critères précis. Et je terminerai par, j'ai oublié, par un cas qui concerne, et c'est par là que je voudrais terminer, les fameuses requêtes collectives. Je parle pas de class actions, il n'existe pas tout à fait chez nous. Mais nous connaissons devant nos juridictions une requête collective signée par 10 requérants, 30 requérants, 50 requérants. Chacun ayant droit, en cas de violation, à une réparation. Donc, parfois, les sommes en cours peuvent être gigantesques. Je vais vous citer une affaire qui a été portée devant la Cour de Strasbourg. Jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, la Cour n'a jamais accordé des dommages d'intérêt, enfin de satisfaction équitable équivalent à 1 milliard, etc. Donc c'est chaque fois, la Cour est très attentive. Et il y a une affaire que les juristes spécialistes de la Convention ignorent beaucoup. Ignorent totalement. Mais pourtant, cette affaire est très importante. Pourquoi? Parce que la Cour statue une petite partie de son activité débouche sur des arrêts. La grande partie de son activité, ce sont des décisions d'irrecevabilité. Or, il y en a des milliers. La Cour ne peut pas les... Enfin, elle les publie, mais personne ne peut avoir le temps, le courage de lire chaque jour toutes les décisions sur... et toutes les arrêts. On lit les arrêts, on ne lit pas les décisions sur l'irrecevabilité. Et c'est une décision d'irrecevabilité. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'affaire de l'huile frelatée en Espagne. Quand j'étais étudiant, c'était tout le temps dans les journaux. Journaux européens, hein, journaux belges, c'était un scandale à la dimension européenne. L'État espagnol ne prend pas de mesures préventives de santé et l'huile frelatée est vendue à grande échelle en Espagne et il y a des centaines de morts. C'était un scandale à l'époque. Et ces personnes l'État espagnol les a indemnisées. Excusez-moi. L'État espagnol a refusé de les indemniser. Et ces personnes se sont regroupées, c'était à l'époque 8000, en une association, sans but lucratif, et ils ont agi devant les tribunaux espagnols, et l'État espagnol, chaque fois refusant, interjetant appel. Donc l'appel est allé devant, jusqu'à devant la Cour de cassation. Oui, pardon, ils ont eu gain de cause en première instance, et puis l'État a interjeté appel, l'affaire a duré 20 ans, jusqu'à la Cour de cassation, et la Cour de cassation a dit, je n'actualise pas le montant, c'est le montant d'il y a 20 ans qui vous a été attribué, que je confirme. En 20 ans, alors, ils avaient évalué tous ensemble leur dommage, je crois que c'était juste qu'ils travaillaient avec un professeur de mathématiques. Vous vous rendez compte, il y a un professeur de mathématiques qui travaille dans l'équipe. 1,5 milliard d'euros. Et l'affaire vient devant la Cour. Requête collective, puisqu'il fallait être prudent, il fallait que l'association agisse. Et si la Cour dit, ah non, l'association, hein, il fallait que tous les autres signent pour que la Cour ne puisse pas rejeter. Mais imaginez, il y avait 7000 personnes, donc je vais indiquer les adresses de chacun. une telle affaire, presque juridiquement, c'est une affaire fondée. C'est une affaire fondée, puisqu'il y a une jurisprudence de la Cour qui dit qu'il faut actualiser le montant en tenant compte de l'inflation. Jurisprudence constante. La Cour était fort embarrassée, évidemment, devant l'intérêt financier de l'État. Eh bien, la Cour a déclaré la vérité irrecevable en disant. Mais vous demandez 1,5 milliard, donc les intérêts jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation. Moi, je crois, moi, la Cour, que c'est excessif de demander jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, mais jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel, peut-être oui. Mais vous le demandez, vous auriez dû demander en ordre subsidiaire. Et en ordre subsidiaire, dans le dispositif, vous ne demandez rien. Donc vous ne demandez que 1,5 milliard. D'accord, peut-être pas à rejeter. Et ce point avait fait l'objet d'une discussion, est-ce qu'il fallait demander moins? Mais bien entendu qu'on est content d'avoir moins. Mais la Cour reprochait de ne pas. Donc, personne ne lit ce genre de requête, n'est-ce pas, parmi des milliers de requêtes, cette affaire a disparu. Mais cela vous montre, cette affaire, que donc, confronté à des sommes colossales comme ça, la Cour fera tout, n'est-ce pas? Ah oui, la Cour fera tout pour ne pas statuer sur ça. Et la jurisprudence de la Cour, à cet égard, comporte des indications encore plus éléphantes en matière de fiscalité. Le taux de la fiscalité, parce que le protocole additionnel protège les biens, mais aussi la Cour dit « Ah, je vais vérifier maintenant le taux de l'impôt, tout, je vérifie tout. » Et alors, elle était confrontée à un taux d'impôt de... Elle a dit « Les taux confiscatoires, je vais saisir. » On lui a présenté une affaire à 85% d'imposition. La Cour s'en est sortie par d'autres fois, alors elle procéduralise, elle a dit « Oui, je vais voir quand même s'il y a eu des garanties procédurales pour établir ce taux. » Oui, il y en avait, alors le taux lui-même, je ne comprends pas. Donc, vous voyez, d'une manière générale, dans ces affaires de satisfaction équitable, il y a des limites. Et la Cour est très réaliste, et elle est disposée à admettre, donc, des cas où il y a lieu à tempérer les ardeurs des justiciables. Dans une affaire de requête collective, la Cour a dit ceci. Alors, requête collective, la Cour a dit, mais c'est un avantage quand même de présenter une requête collective en matière d'urbanisme, puisque vous partagez les frais d'avocat, donc chacun des justiciables subit moins de peine, de frustration, du fait qu'ils attaquent en groupe. Et donc il n'y a pas un seul chevalier qui attaque tout seul en assumant tous les frais. Et la Cour a dit, mais je vais donc diminuer le préjudice dont chacun a subi individuellement, et a subi colossalement. Donc, alors, oui, les effets pervers devant le Conseil d'État d'une telle jurisprudence. Voilà, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, si le Conseil d'État applique cette jurisprudence de la Cour de Strasbourg, il y aura un chef de file qui va aller devant le Conseil d'État. Les autres vont dire, on vous appuie, ne vous en faites pas, soutien indéfectible, mais quand il va dire aux autres, ben, vous ne pouvez pas partager les frais un peu, les frais de timbre et même une petite participation, on laisse aller l'autre. Et du balcon, on regarde, si lui gagne l'affaire, eh bien on demande une copie de l'arrêt d'annulation, n'est-ce pas? Et on va directement devant le juge judiciaire, on ne doit plus prouver le lien de causalité, le dommage, le travail qui est fait par l'autre. Et donc, cet effet de désertion du Conseil d'État, quand il y a des réductions colossales comme ça, il faudra aussi être attentif en matière de requête collective. Voilà, j'étais peut-être un peu trop pratique.